passion moderniste.
Vive le roi, vive le roi.
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller au musée de Valence et ils avaient une grosse, on peut dire une énorme collection consacrée au peintre Hubert Robert qui m'avait déjà fait de l'œil. Parce que vous connaissez peut-être ce peintre pour ses vues du Louvre ou alors ses grandes ruines antiques. Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série très spécial en partenariat justement avec le musée de Valence. À propos d'une exposition qui se tient tout le premier semestre 2026, nous allons parler entre autres de la formation de Hubert Robert, mais aussi, parce que l'exposition n'est pas consacrée qu'à lui, aussi de Fragonard, que vous connaissez peut-être là pour des tableaux comme Le Verrou, Les Hasards Heureux de l'Escarpolette ou encore La Liseuse. Allez voir sur internet, vraiment, vous connaissez ces tableaux. Mais aujourd'hui, on va effectivement parler des similitudes entre ces deux peintres, mais aussi des différences, et on va plonger dans la création artistique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et des représentations de la nature. Cet épisode est en quelque sorte une suite de l'épisode sur Watteau où nous avions parlé du début du XVIIIe siècle, mais c'est aussi une suite en quelque sorte du hors-série 2 de ce podcast où nous avions parlé d'une exposition autour de l'érotisme des œuvres du peintre François Boucher qui fut en quelque sorte le maître de Fragonard. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Catala. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Sarah, donc tu es commissaire de l'exposition et tu es aussi donc docteur en histoire de l'art avec une thèse soutenue en 2020 sur Hubert Robert et tu es actuellement élève conservatrice du patrimoine à l'Institut National du patrimoine. Déjà, j'ai une première question un petit peu que j'aime bien poser aux gens qui sont passionnés d'un sujet. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser et à travailler sur Hubert Robert ?
Ce sont un peu des hasards qui me ramènent il y a bien longtemps. J'étais étudiante à l'université de Lille en licence 2 et j'avais la chance d'avoir un des très rares cours donnés en France sur le dessin par Sophie Rau, une professeure qui est devenue ensuite ma directrice de thèse. Et elle a projeté sur l'écran des dessins de Boucher, Watteau, Fragonard, Hubert Robert, Greuze. Et à chaque fois, je me disais « Ah, j'aime trop ». Et puis, je me suis dit « Bah, j'ai envie de poursuivre mes études en histoire de l'art ». Et je vais les poursuivre sur un de ces artistes. Et après, j'ai fait un petit calcul. Il faut savoir que moi, j'étais danseuse classique avant et je reprenais mes études avec un peu de retard par rapport à mes camarades. Et j'avais une sensation où je ne devais pas perdre de temps. Je me sentais pressée par le temps. Et donc, de manière pragmatique, je suis allée à la bibliothèque de l'université. J'ai regardé tous ces artistes. J'ai tapé sur Google tous les noms de ces spécialistes. Et il se trouvait que pour Hubert Robert, il y avait un petit vide. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai pris en me disant si j'ai une chance d'exister dans ce milieu, ce sera peut-être grâce à cet artiste, tout simplement.
Je trouve que c'est une approche importante et tout, de se dire bah, il faut bien travailler sur quelque chose, autant prendre quelque chose où on a un peu d'inédit.
Oui, c'est surtout, je pense que c'était parce que j'étais déjà en stage pendant mes études à la Sorbonne ensuite avec Emmanuelle Brugerolles dans un cabinet de dessin et elle m'a offert un emploi assez vite à mi-temps et donc j'avais ce lien d'une recherche universitaire qui pouvait s'appliquer dans les musées. C'est ça aussi qui m'a porté à me dire il faut que je trouve un fond inédit, inexploité sur cet artiste que j'ai appris à plus qu'aimer. Hubert Robert, il fait maintenant tellement partie de ma vie personnelle, c'est-à-dire que voilà, grâce à lui, j'ai pu faire plein de choses extraordinaires, rencontrer des gens qui sont devenus des amis. Donc ça m'a menée à Besançon. Et ma thèse s'est transformée en exposition avec la publication de l'ensemble du travail. Et c'était vraiment très sympathique et une grande marque de confiance de l'institution à ce moment-là, ça en 2013.
Et d'ailleurs aussi, tu as participé à une autre exposition qui était en 2016 au Louvre, que j'avais eu la chance de voir. Et donc c'est pas le catalogue, mais c'est l'album de l'exposition. J'étais déjà un peu fan d'Hubert Robert à l'époque. Là, je suis totalement tombée amoureuse dans cette exposition qui était vraiment très très belle. Donc je suis contente de te recevoir enfin aujourd'hui pour parler de tout ça. Et qu'est-ce que tu souhaitais montrer dans l'exposition ?
Ce qui était le plus important à montrer, c'est le fonds de Valence. Il est important en France, il est important à un niveau international, il comporte des œuvres vraiment de très très grande qualité pour Hubert Robert, en particulier les sanguines qu'il a réalisées en Italie, il y en a plus de 100. Malheureusement, on ne peut pas les voir constamment parce qu'elles s'abîment avec la lumière, lumière du jour, mais lumière de la lune, et donc il faut les placer en réserve. Or, c'est un patrimoine très important pour les gens de Valence et alentours, et ces dessins méritent d'être vus ponctuellement pendant 3 mois, et donc l'exposition l'exposition se constituait autour de ça, en ajoutant la personnalité de Fragonard pour y découvrir en fait deux hommes qui se sont connus toute leur vie, qui ont marqué la seconde moitié du XVIIIe siècle en France, mais qui ont travaillé sur des paysages sans être principalement des paysagistes. C'est pas leur principale activité. Chacun est peintre d'histoire, peintre de ruines. Humer Robert dessine des jardins. Ils sont aussi tous les deux conservateurs du futur musée du Louvre et c'est à la fin de leur vie qu'ils se retrouvent. En fait, je voulais montrer cette histoire de cette relation inédite entre ces deux hommes. Elle était bien connue pour leur relation en Italie et moi je voulais poursuivre tout au long de leur vie en fait. Comment est-ce qu'ils se côtoient encore, comment ils s'inspirent mutuellement et comment ils évoluent en parallèle.
Et pour teaser un petit peu le reste de l'épisode, qu'est-ce que cette exposition apporte à la connaissance que nous avons de ces deux peintres qui sont, tu l'as dit, ils sont déjà quand même assez connus. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend de plus dans l'exposition ?
Oui, c'est une bonne question. C'est ce qu'on essaie toujours de faire avec une nouvelle exposition. Apporter des recherches neuves, inédites, c'est un grand challenge parce que on ne peut pas tout dire. Une exposition, c'est quand même fait d'espèces de résignation, de prêts, de choses comme ça. Donc en fait, le résultat qu'on apporte, c'est le seul qui pouvait advenir et pas le résultat idéal. Et ça, c'est vraiment quelque chose à accepter dès qu'on commence une exposition. Ce que je voulais montrer vraiment, c'était la relation de ces deux hommes qui ont certainement été amis, qui se sont connus tout le long de leur vie, qui vivaient dans quand même le même couloir aux galeries du Louvre et qui se sont retrouvés ensemble à la fin de leur carrière conservateurs du musée du Louvre lorsqu'il était en création. Ce qui les réunissait, c'était vraiment l'approche du paysage. Chacun a fait des choses diverses dans la peinture. Humer Robert est même allé plus loin que la peinture avec le monde des jardins. Mais tous les deux, il y a quelque chose sur la nature qui est très fort, quelque chose qui est vraiment très personnel et que je voulais montrer parce qu'on pense qu'à Vernet pour le XVIIIe siècle. Et c'est pas que ça m'agaçait du tout parce que j'adore Vernet, mais je trouvais c'est dommage de passer de Vernet à Valenciennes en Théodore Rousseau d'un coup, en oubliant tous ces autres artistes.
Alors raconte-nous comment et quand se rencontrent Humer Robert et Fragonard et surtout où ?
Oh là là, ils ont de la chance, ils se sont rencontrés à Rome, c'est quand même chic. Fragonard est élève de François Boucher puis de Chardin. Il remporte un premier prix de peinture à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et ça lui permet de terminer sa formation de la parfaire à Rome, où il y a tous les chefs-d'œuvre antiques, modernes, de l'architecture. Lui, il est donc pensionnaire à l'Académie de France à Rome, qui est en plein cœur de Rome, sur la Via del Corso. Humer Robert, c'est très différent. Il fait partie d'une famille qui est déjà liée à l'intendance de la famille Choiseul, donc des grands personnages de l'aristocratie française qui ont du pouvoir. Et il va en fait être emmené dans l'ambassade du futur duc de Choiseul, qui est envoyé par le roi Louis XV. Donc il arrive à Rome dans ces circonstances-là, et sa protection lui permet d'avoir une place à l'académie. Mais ce qu'on oublie un peu, c'est que à force de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et cette protection quand même qui l'aide beaucoup dans la vie, il réussit à obtenir une place officielle de pensionnaire en 1759, et c'est justement à ce moment-là qu'apparaît la signature Humer Robert. C'est vraiment très touchant de voir comment un artiste se révèle un peu à lui-même et assume son nom. Fragonard, c'est pas quelqu'un qui signe, c'est pas son projet, c'est pas celui-là. Son projet, il est dans la matière même de la peinture, et ça, on le perçoit tous les deux dès le début. Donc ils se rencontrent là-bas, donc Fragonard arrive en 1756, Humer Robert il y est depuis 1754, donc tous les deux se retrouvent finalement donc cette année 1756, sauf que Fragonard se sent un peu écrasé par la beauté des chefs-d'œuvre qu'il voit, et à une période de grand découragement qui l'empêche même de dessiner, de faire les exercices obligatoires à l'académie. C'est un grand problème pour le directeur, et petit à petit, en compagnie d'Humer Robert, ils vont dessiner ensemble sur le motif, c'est-à-dire en se déplaçant au milieu des ruines, dans les paysages, à Rome et alentour, quand ils en obtiennent l'autorisation. Il y a un mécène aussi qui a leur âge, en fait, qui est l'abbé de Saint-Nom, qui vient à Rome, et il a besoin d'un guide. Donc au départ, c'est Humer Robert qui joue ce rôle, mais Fragonard a tellement de talent qu'il alterne l'un et l'autre pour se faire guider. Il a une chance extraordinaire, c'est quand même, avouons, pas mal. Donc il part en Italie du Sud avec Humer Robert, mais il va par exemple à Tivoli pendant longtemps avec Fragonard. Enfin, voilà, c'est des choses qui s'alternent et les trois hommes se connaissent très très bien. Il y a une émulation qui se crée. Pour l'abbé de Saint-Nom, Fragonard dessine vraiment plutôt les ensembles peints avec des personnages, parce qu'il est quand même extraordinairement doué. C'est quelqu'un qui a un grand talent. Il y a une grande attente de l'académie de revenir et d'être un peintre d'histoire fabuleux. Donc il faut qu'il s'entraîne avec tous ses chefs-d'œuvre, Michel-Ange, Raphaël, le Guerchin, enfin tous les artistes qui couvrent par des fresques et des toiles les églises romaines et les palais aussi. Et pour Hubert Robert, c'est plus la dimension architecturale ou les ruines aussi, parce que Rome, c'est un champ de ruines, donc un terrain pour l'archéologie, et beaucoup de choses sont excavées des sols, on les voit, et c'est ça que représente plutôt Hubert Robert. Donc dès le début, c'est deux artistes qui se complètent extrêmement bien.
Donc si on arrive aussi à la nature, chez les artistes de cette époque, on retrouve beaucoup de thèmes antiques, et de paysages aussi d'inspiration italienne, parce que, c'est intéressant, on peut raconter ça, à cette époque se développe un peu une tradition pour les artistes de faire des voyages, pour se former, et pourquoi est-ce qu'ils vont spécifiquement en Italie ?
En fait, ils vont en Italie parce que c'est considéré comme le berceau de l'art où il y a absolument tout, en même endroit, Rome, c'est la capitale européenne de l'art en Europe à ce moment-là, non seulement les artistes français, mais tous les artistes européens viennent parfaire leur éducation à Rome pour se confronter à l'Antiquité. Il y a aussi des traces médiévales. Hubert Robert y est assez intéressé. Il y a des traces modernes, donc des architectures de Bramante, de Michelangelo. Tout ça, Hubert Robert le regarde énormément. Et puis, il y a la peinture de Carlo Maratta, des choses plutôt à la fin du XVIIe siècle. Saf Fragonard le regarde beaucoup. Donc, ils y vont parce qu'ils ont des leçons d'histoire de l'art, d'histoire, oui, de la culture aussi, à ciel ouvert. Ils vont emmagasiner tout ça dans des tas de croquis, des tas d'études, et revenir en fait en France avec des répertoires de formes qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie, parce que c'est ça qu'on leur demande. On leur demande de créer des choses, mais de montrer qu'ils ont été parfaitement éduqués et qu'ils sont capables de solliciter des grands modèles pour montrer qu'ils sont capables de les dépasser. Donc il y a tout un rapport d'émulation qui se crée avec les maîtres du passé, mais aussi entre eux, parce qu'il faut quand même imaginer un groupe de 15 étudiants dans l'académie qui ont à peu près 25 ans, donc en pleine autonomie personnelle, mais aussi artistique. Ils sont en train de bâtir leur personnalité très fortement. Et c'est ça qui rendait la relation entre Hubert Robert et Fragonard passionnante, parce que Hubert Robert, certainement, s'aperçoit très vite du talent fou de Fragonard. Et à l'inverse, lui-même est tellement éduqué. C'est quand même un des rares qui est allé au Collège de Navarre, qui est l'actuel lycée Henri IV en France, à Paris. Et c'est déjà un lycée exceptionnel. Et en fait, c'est surtout un artiste, quand il se promène dans les ruines en compagnie de ses camarades, il est capable de lire et de traduire le latin, le grec. Et ça, c'est quand même une chose extrêmement rare. Et à mon avis, enfin, c'est même certain, c'est de là qu'est venu son rapport très original avec les ruines et avec le passé. Et là où ils se rejoignent sur le paysage, c'est que pour découvrir toutes ces choses-là, il faut marcher, il faut se mettre en mouvement. Et le mouvement à Rome, c'est beaucoup de terre. Les palais sont abandonnés, les ruines, il faut les imaginer enterrées par rapport à ce qu'on connaît de nos jours de Rome. Et ils se promènent vraiment beaucoup.
Donc quand on voit cette sanguine dessinateur au Palatin de Hubert Robert, en fait, c'est vraiment lui et ses compars de l'époque qui représentent.
Oui, c'est absolument ça. Hubert Robert, c'est quelqu'un qui a une attitude qu'on appelle réflexive. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur son propre travail, sur sa propre personnalité en tant qu'artiste. Il faut se souvenir qu'il n'a pas passé les étapes traditionnelles de l'académie. Donc, il se questionne constamment sur ce qu'il veut être, la manière dont il veut se représenter aussi. Et en même temps, il doit certainement vivre intensément sa vie à Rome. Et bien sûr qu'il il dessine ses collègues, on voit son chien partout. Chez Hubert Robert, vous verrez beaucoup de chiens, n'ayez pas de doute, c'est bien le sien. En fait, ce qu'on voit, c'est son quotidien. Alors, idéalisé, bien sûr, parce que tout le monde est toujours dans des poses les plus favorables.
Donc maintenant, on sait qu'il faut qu'on repère les chiens chez Hubert Robert. Alors ce qui est paradoxal par contre dans cette représentation de la nature, c'est que les artistes travaillent les paysages et la végétation, mais pas forcément dans les détails. Pourquoi ?
C'est vrai que je me suis questionnée sur ça. Déjà, je pense qu'on a des éléments perdus des carnets. Donc je pense que ça a existé parce qu'on en a quelques-uns. On voit des fois dans les tableaux qui sont capables d'aller très loin dans le détail sur des acanthes, sur des ronces, sur des choses comme ça. Et nous, on possède pas ces souvenirs. Les carnets sont souvent démantelés, feuille à feuille, redécoupés pour des collectionneurs au fil des siècles. Et puis, ce sont des peintres qui répondent à une règle de l'Académie à l'époque qui est le tout ensemble. On ne peut pas faire apparaître au tout premier plan, de manière très identifiée, une essence de plante, par exemple, parce qu'elle jurerait avec un bâtiment, etc. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt utiliser la nature au départ comme un décor, vraiment. Ils ont mis du temps à l'apprécier, mais c'est leur carrière qui veut ça. Un veut être peintre d'histoire, Fragonard, Hubert Robert, certainement peintre d'architecture. Donc, la nature, elle n'est pas au premier plan pour eux. Et pourtant, elle est tout le temps présente, elle leur permet d'aller vers d'autres choses, et c'est certainement ça qu'ils vont exploiter.
Mais alors, comment les artistes, quand ils travaillent à Rome, s'approprient les formes de la nature ? Est-ce que déjà à cette époque-là, on sent une évolution dans leurs représentations, dans leurs travaux ?
Oui, il y a deux choses qui traversent tout leur travail. D'abord, c'est les modèles. C'est des artistes qui ont été entraînés à dessiner d'après des modèles. Donc, des gravures, ils les regardent beaucoup, notamment celles de François Boucher, des artistes hollandais comme Bloemaert.
Donc dans l'atelier, pas forcément dans
voilà,
la nature.
Dans l'atelier, mais et ils doublent ça avec une pratique en plein air, dans la nature. Donc où ils vont travailler ce qu'au XVIIIe siècle, on appelle plutôt ça sur le motif. Il faut vraiment les imaginer assis par terre, un carton rempli de feuilles sur leurs genoux, et puis ils dessinent. Donc si vous regardez les Sanguines de Valence, c'est très ras du sol. Le point de vue, c'est celui à terre qu'a Hubert Robert. Pour Hubert Robert, ça lui donne un rapport au sol, ce sol sur lequel il s'assoit, mais sous lequel aussi il sait qu'il y a plein de richesses à découvrir et que la nature a recouvert, a enseveli, soit par la terre, soit recouvert par des feuillages. Pour Fragonard, c'est un peu plus différent. Il peut aller plus dans le détail qu'Hubert Robert, avec plus d'intérêt sur, on le sent dans certains dessins qui sont plutôt dans le catalogue, parce que les prés étaient malheureusement, des fois les gens habitent très loin et on ne peut pas obtenir des prés. Et là, on voit qu'il essaie de rendre compte de la lumière, comment la lumière elle va traverser les plantes ou comment le vent va faire frémir des feuilles. Et ça, c'est vraiment très perceptif dans l'œuvre de Fragonard, par exemple.
Là, on le voit dans l'étude d'arbre avec une ferme. Effectivement, sur le côté, oui, on sent que l'artiste est au ras du sol. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que là, à Rome, Hubert Robert et Fragonard sont en extérieur. Et j'ai l'impression que c'est plutôt rare pour les artistes d'aller vraiment en extérieur par rapport au travail en atelier.
Peut-être que ça nous paraît rare parce qu'on a une image un peu romantique de l'artiste dans son atelier, perdu avec ses pensées. Mais pour le XVIIIe siècle, c'est assez fréquent à Rome, en particulier si on est pensionnaire à l'Académie de France, parce que le directeur, qui s'appelait Charles-Joseph Natoire, encourageait beaucoup les pensionnaires à sortir des ateliers, sortir des églises, des palais, sortir un peu de cette éducation figurative pour aller vraiment se confronter avec la nature, observer comment ça fonctionne. Et donc, ça a un peu aussi changé leur manière de faire des paysages, de les introduire. Il y a une nette différence entre les artistes qui sont allés à Rome et ceux qui n'ont pas eu cette chance d'y aller. Ils ont aussi, les artistes, tout au long du XVIIIe siècle, des préférences de matériaux. Il y a des générations qui préfèrent travailler avec la pierre noire sur des papiers colorés. La génération d'Hubert Robert et Fragonard, ils ont tous aimé la sanguine.
C'est fait avec quoi, la sanguine ?
La sanguine, c'est une matière, en fait, c'est de la pierre extraite avec des qualités très ferrugineuses, donc riche en fer, et qui s'oxyde et qui donne cette couleur orangée. Et on l'appelle, en fait, la sanguine parce qu'elle était privilégiée dès Louis XIV, donc sous Charles Lebrun, un peintre du XVIIe siècle en France, pour travailler les académies. Les académies, c'est l'étude d'après le modèle vivant. Et le modèle vivant ayant une chair pâle, rosée en Europe à ce moment-là, on va appeler ça la sanguine, en rapport avec cette couleur de sang, couleur de chair. Et pour les artistes français comme Hubert Robert et Fragonard, ils utilisent cette sanguine, ça donne une teneur chaleureuse à leurs travaux, qui retranscrit une chaleur du midi, une lumière intense. Quand ils travaillent en plein air, les artistes, ils y vont surtout au printemps. Au printemps, en été, plutôt à l'extérieur, parce qu'il fait très très chaud à Rome, et l'hiver, c'est vraiment dévolu au travail en atelier. Justement d'après ce modèle vivant, donc toujours à la sanguine, mais elles ne sont pas dans les expositions là.
Ben justement, alors on passe progressivement dans les œuvres de l'exposition du dessin à la peinture, et d'ailleurs il faut qu'on parle d'une affaire. Parce que l'œuvre qu'on a devant nous, on a longtemps douté de l'attribution de ce dessin. Alors racontez-nous pourquoi, Sarah Catala.
Oui, il y a plusieurs dessins, plusieurs sanguines qui ont fait des espèces d'aller-retour entre Fragonard, Hubert Robert, parce qu'en fait, ces deux artistes travaillent constamment ensemble, côte à côte, pendant 3 ans, oui, 4 ans presque. Ça n'a pas toujours été facile pour les historiens de l'art de percevoir des choses, des différences. Il faut imaginer aussi que Fragonard est considéré comme un véritable génie. Moi aussi, j'ai dit qu'il était talentueux, qu'il était doué, et c'est ce qu'il est. Hubert Robert, ça se compense par beaucoup d'intellectualisme aussi, et une grande capacité à savoir bien composer, de manière scénographique. Et ça, c'est aussi des aspects où il se complète très bien. Donc c'est le moment où, quand certains dessins sont signés, on peut voir les difficultés de Fragonard pour structurer fortement une composition, et les difficultés d'Hubert Robert pour... affiner les personnages, les rendre plus harmonieux dans ses compositions. Donc on voit bien deux artistes qui se regardent les uns les autres. En fait, les artistes, ils ont des tics. Et ça, on n'y avait pas pensé. Ils ont des préférences. Fragonard, par exemple, préfère travailler au graphite. Il place une préparation au graphite, très sous-jacente, comme ça, sur sa feuille en papier. Il la plie en deux auparavant pour bien voir le centre, bien voir l'espace et la spatialisation finalement de ces éléments dans sa composition. Hubert Robert, il n'a pas besoin de faire ça, il est un peu plus à l'aise. Donc lui, il fait son tracé sous-jacent directement à la sanguine. Et après, il remplit tout de sanguine. On peut voir des différences avec les deux. Par exemple, Fragonard, c'est quelqu'un qui va aimer laisser des marges, travailler plus sur la réserve, travailler plus sur la lumière. Donc c'est pour ça que ce jeu de réserve est très très important. Il va beaucoup plus moduler dans le détail. C'est de la sanguine avec des hachures qui peuvent être très espacées, puis après très estompées. Hubert Robert, c'est quelqu'un qui se sent pressé par le temps et qui a tendance à aller très vite. Les dessins sont faits un peu de caprice, comme on disait autrefois, très rapidement, en 30-45 minutes, il faut imaginer ça. Donc le tracé est rapide, les hachures sont un peu brutales parfois, et c'est toutes ces petites choses-là qui vont permettre déjà de les séparer, mais c'est surtout leur appréhension des sujets finalement qui va un peu mettre un terme aux discussions. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Par exemple, dans la sanguine de Washington, qui représente une vue de la fontaine de Lovato à Tivoli, où les deux artistes se sont rendus en 1761 en compagnie de l'abbé de Saint-Nom. C'est un dessin qui a toujours été attribué à Hubert Robert dès son entrée dans les collections. Et j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec les conservateurs en place, directeur du département, de me rendre à Washington à plusieurs reprises pour voir ce dessin qui m'obsédait un peu parce que j'arrivais pas à le comprendre. Il y avait quelque chose qui clochait. Et quand quelque chose cloche, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et j'avais aucune intuition, j'avais rien du tout. J'étais très impressionnée par toutes les personnes qui avaient aussi commenté ce dessin très connu, considéré comme un plus beau des collections américaines. Donc j'ai mis beaucoup de temps à oser dire, mais en fait, c'est Fragonard, ça n'a rien à voir avec Hubert Robert. Et il se trouve que le donateur, qui était un très grand collectionneur, était vraiment persuadé que c'était un Fragonard et l'a acheté comme tel. Le travail, pour moi, il a consisté, à partir de ce dessin, à me questionner sur, par exemple, la fontaine. La fontaine, c'est une figure féminine qui apparaît comme une image féerique dans ce lieu. Bon, Fragonard, c'est des choses qui l'intéressent beaucoup, la présence du féminin dans la nature, quelque chose qui surgit, qui est absolument magique et qui est opposé au travail très trivial, très simple, modeste, des lavandières qu'on voit au premier plan. Hubert Robert, c'est pas son dada quand il est dans un paysage, dans un jardin très construit, il va plutôt s'intéresser à l'ingénierie hydraulique, par exemple, c'est ça qui va l'intéresser. Ou alors à la manière dont les arbres ont des résonances avec l'architecture, ils peuvent fonctionner comme une coupole, comme un arche, comme une colonne. Ils ont vraiment des choses très très différentes, et même du point de vue, quand on regarde, après c'est à force d'affiner, on a l'impression de devenir un peu zinzin parfois, mais on affine et on voit des portions au premier plan, en oblique, et ça c'est des tics de Fragonard. C'est des moyens pour structurer sa composition, parce qu'il n'est pas toujours à l'aise, et par contre là où il est vraiment extrêmement fort, c'est cette circulation de la lumière très poétique, très douce, avec des modulations très raffinées que n'a pas du tout Hubert Robert. Hubert Robert, il faut que ce soit des contrastes très forts. Et quand on les met ensemble, on se dit mais évidemment, et puis surtout on avait ce tableau qui était connu par une petite photo en noir et blanc, et puis que j'ai découvert dans une collection privée, enfin redécouvert finalement dans une collection privée il y a quelques années, et en tissant des liens avec le collectionneur qui m'a fait confiance, j'ai pu donc commencer à bien tout regarder, faire restaurer dans un atelier parisien ce tableau, et j'étais très heureuse du résultat, parce que l'enjeu c'était un tableau qui avait déjà beaucoup vécu, qui était abîmé, et en fait fait de me rendre compte que, en travaillant sur la provenance aussi, de retrouver le nom de Robert à un moment donné cité. Et donc je me suis mise à écumer tous les Robert qui existaient du temps de mon cher Hubert Robert, pour m'apercevoir que dans cette vente-là, on retrouvait tous ses clients, clients chez qui il dînait régulièrement, etc., parce qu'Hubert Robert a une grande fluidité sociale, et me dire que ce tableau-là qu'il vend est certainement le sien et certainement Hubert Robert, et que c'est peut-être un échange des cadeaux qui se faisait entre pensionnaires. J'aurais jamais le fin mot, parce que des fois, on est en manque de sources, mais l'hypothèse est là et elle semble assez plausible.
Et c'est donc la première fois que ce tableau est exposé au public, c'est ça ?
Oui, c'est la première fois dans un musée, dans une collection publique, et c'est un vrai plaisir de pouvoir la confronter avec cette feuille qui vient de loin, Washington, et c'était aussi une grande confiance de la part des conservateurs de Washington d'accepter l'attribution que je proposais et de me soutenir dans ce processus. Je dois dire que j'échange beaucoup avec des conservatrices américaines qui aiment travailler en workshop, en fait. On peut apporter des problèmes et les résoudre ensemble à force de discuter, ça prend plusieurs années. J'ai pu bénéficier d'imagerie multispectrale, en fait d'images en rayon X, parce que j'avais besoin de voir le tracé sous-jacent de plusieurs dessins pour vérifier mon hypothèse sur le travail au graphite. Donc un dessin du Courteau qui est juste à côté l'a exposé. Là aussi, Katie Gotardo, la conservatrice en charge, m'a envoyé une imagerie où j'ai pu tout comparer. Et ce travail-là, il est rare pour les chercheurs. C'est difficile d'atteindre ce niveau-là. Il est coûteux, il demande un matériel spécifique. Et c'est vraiment grâce aux relations qu'on a avec les gens des musées qu'on peut parfois obtenir ces résultats. Mais j'ai bien conscience que ce travail fin sur la matérialité que j'ai pu faire depuis quelques années, il n'est pas pour tout le monde.
Il y a un côté en fait un peu émouvant de voir cette sanguine à côté de ce tableau, parce que on peut imaginer, c'est une hypothèse, que la sanguine est la préparation pour le tableau.
Ah oui, c'est tout à fait ça. Hein. Ces artistes-là, Hubert Robert et Fragonard, tout ce qu'on voit autour de nous, il faut imaginer qu'ils font les artistes une première fois sans projeter tout de suite un tableau. Ils les font, voilà, parce qu'il faut travailler en plein air, on revient travailler en atelier. Par exemple, celui-ci, cette sanguine de Washington, elle est reprise en atelier, elle est travaillée. D'ailleurs, la topographie du site est inversée, parce qu'il a entre-temps réalisé une contre-épreuve, c'est-à-dire qu'il a appliqué une feuille humide sur sa sanguine, il l'a pressée, et sur l'autre feuille, donc humide, la matière s'est reportée, et il obtient une inversion, en fait, du site. Et ça, il va le retravailler, et c'est tout ce travail-là, petit à petit, qui aboutit à un tableau. Mais dans un second temps, la composition lui convient, il se dit « Allez, on passe à une version peinte ». Et finalement, à l'Académie de France à Rome, on dessine beaucoup, mais on peint assez peu. Donc là, peindre un paysage sans réelle commande liée à l'Académie, on voit bien le lien de sociabilité, puisque Hubert Robert a, je le pense, probablement droit à ce tableau-là. L'abbé de Saint-Nom possède une autre vue qui est conservée au Louvre et qui est actuellement dans les salles et qui représente la cascade de Tivoli. Et Charles Natoire, le directeur, a une autre vue de l'escalier, un escalier de Tivoli qui est conservé à Minneapolis.
Et on voit que cette vue qui est assez particulière de Tivoli a inspiré Hubert Robert mais aussi d'autres peintres.
Tivoli, c'est vraiment le site emblématique du paysage en Europe. C'était un site très spectaculaire avec un village pittoresque perché au sommet d'un rocher avec des cascades qui filent le long de la ville, qui tombent dans la petite rivière, la Nienne, dans une vallée toute verdoyante. C'est vraiment sublime. Si vous avez l'occasion d'y aller un jour, on en sort enchanté. Et ces artistes-là, ils y trouvent aussi une manière de s'identifier. Ils sont tous ensemble, ils y sont tous passés. Tous ceux qui vont à Rome vont à Tivoli. Donc il y a un phénomène de s'inscrire dans une lignée de grands paysagistes, que ce soit des artistes, des peintres français comme Nicolas Poussin ou des peintres hollandais, et puis bien avant eux, des peintres issus des Flandres, parfois d'Allemagne. À Tivoli, on rentre dans une lignée de grands artistes paysagistes. C'est aussi un grand lieu très apprécié des voyageurs du Grand Tour. Ce sont des membres de l'élite aristocratique, souvent européenne. C'est vraiment un phénomène européen où on va faire son voyage en Italie pour bien s'éduquer, augmenter sa culture visuelle, artistique, et on rapporte des vues, des souvenirs. Il s'agit de visiter les ateliers des artistes aussi. Et donc, il y en a un qui se démarque fortement en France, qui s'appelle José Vernet. Une espèce de mentor pour Hubert Robert. C'est quelqu'un qu'il connaît intimement avant, après le voyage en Italie, je sais pas, ils se sont certainement, à ce moment-là, quand Hubert Robert arrive à Rome, Verne est déjà en France en fait, donc ils se croisent. Mais on sait qu'ils siègent ensemble, il y a des correspondances qu'ils partagent, etc. Donc il y a une véritable admiration pour le travail de Verne qui fait des vues fluviales, des paysages, et qui d'un coup, très fortement payé pour l'époque, vraiment, c'est... Il y avait un grand collectionneur, Mariette, qui disait qu'il fallait poser une grosse bourse remplie d'écus pour s'offrir un Verne. Donc c'est vraiment une affirmation sociale pour les collectionneurs que de posséder un Verne. Or, Verne ne peut pas répondre à toutes les commandes, donc il y a vraiment de la place à prendre. Et Hubert Robert s'inscrit dans ce processus-là, de prendre une place dans la vue de la nature, ces vues de Tivoli, et en même temps il faut imaginer que le grand peintre des Caprices, avec des paysages très fortement en Italie, Giovanni Paolo Panini, meurt en 1765, le mois qui suit le retour d'Hubert Robert en France. Donc Hubert Robert, qui a travaillé dans l'atelier de Panini en tant que certainement observateur, etc., arrive en France avec José Verne, qui à ce moment-là est accaparé par une très grande commande qui s'appelle les Ports de France, pour le roi, et donc il n'y a plus personne pour offrir ses vues de paysages de touristes. Or, lui, il vient de séjourner 11 ans à Rome, et il prend cette place. Et qu'est-ce qu'il fait? Il devient reçu et agréé à la même séance à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1766. C'est dire l'entregent qu'il possède en une seule et même séance. Il devient peintre d'architecture. Ça lui permet d'obtenir l'autorisation, le droit d'exposer au salon ses expositions annuelles qui avaient lieu dans le palais du Louvre pour montrer son travail, et ce qu'il montre dès les premières années et pendant 15 ans, ce sont des vues de Tivoli régulièrement. Il rappelle à tout le monde en fait qu'il a été à Rome pendant longtemps et qu'il peut vraiment représenter ce paysage. Et alors là vraiment c'est un stratège businessman assez fort. Il modifie tout. Tout est interchangeable. Le format, vous voulez du grand, vous voulez du plus petit, vous voulez du vertical, vous voulez de l'horizontal, vous voulez ce qu'on appelait la villa mécène, vous voulez le temple de Tivoli, non, vous le voulez pas. Enfin, il va faire en fait un caprice architectural et de nature en mêlant les plus beaux éléments du site naturel de Tivoli à ses plus beaux bâtiments, monuments.
Donc il faut vraiment imaginer qu'il travaille à la commande. C'est pas un artiste qui parfois juste travaille comme ça. Il travaille, on lui commande ça, il crée ça.
Oui, il fait les deux. Il travaille essentiellement, en effet, à la commande. Il possède ce réseau social hyper important, structuré autour du duc de Choiseul, qui à ce moment-là est le principal ministre du roi Louis XV. Donc il bénéficie de tous les grands aristocrates de la cour de Versailles liés au clan Choiseul, donc une élite vraiment financière, on va dire. Pour eux, il fait des commandes, mais il sait aussi attiser leurs désirs. C'est-à-dire qu'au salon, une année, il va présenter une grande vue de Tivoli, comme on a celle de 77. On a une très grande vue juste à côté de cette œuvre de Verne, pour montrer justement la manière dont il reconçoit constamment ses caprices et ses vues de Tivoli. On a une immense vue de cascade qui montre la manière dont ça pourrait être introduit dans un décor. Et évidemment, derrière, vous avez à nouveau des commandes qui vont suivre. Donc, il se sert de choses qui sont commandés pour attirer de nouvelles commandes. Enfin, le salon, c'est vraiment pour lui, c'est un vrai salon de présentation de tout ce qu'il peut faire. Parfois, il est quand même un peu rigolo, c'est-à-dire qu'il va, on le sait grâce à des correspondances, il va peindre un tableau, en général de moyen format, pas trop grand, plutôt pour des femmes, parce qu'il est très lié à... Elles sont très présentes dans sa vie. Il y en a qui sont amateurs, qui pratiquent l'art, et je pense à Elisabeth de La Rochefoucauld. Et pour elle, par exemple, pour elle et pour d'autres, il va proposer des vues de paysage en disant « Mais j'ai fait ça en pensant à vous. J'ai mis cet élément un peu personnel qui rappelle l'importance que vous avez dans les arts. » Alors, une peut pratiquer les arts, l'autre peut être peintre de fleurs. Enfin, il est vraiment très drôle. Et puis, il dit « Et c'est parfait, le temps de séchage, d'ici 3 jours, va me permettre de vous l'envoyer à telle date. » Et puis, bien sûr, il est évident que ces personnes vont payer cette œuvre. Donc, c'est un peu culotté. C'est curieux de voir ces stratégies. Mais c'est aussi la vraie vie des artistes. Les artistes ont besoin de vivre. Hubert Robert, il a peu de commandes royales. Hein. Il ne fait pas de la grande peinture d'histoire. Il faut trouver des moyens de subvenir à ses propres besoins.
J'ai l'impression, alors c'est pas très scientifique dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'Hubert Robert, il était sympa. Il a vraiment une réputation d'être quelqu'un de plutôt jovial et qui se lie beaucoup à des gens.
Oui, oui, c'est vrai. Tous les témoignages convergent vers cette constatation. C'est quelqu'un de très aimable, de très agréable, certainement avec beaucoup d'esprit, parce qu'il fait partie de soirées mondaines où on fait des charades, On lui a dédié des poèmes où on raconte par exemple comment il s'est perdu dans les catacombes à Rome. Ou alors il y avait une grande légende, mais qui est réelle, hein, parce qu'elle est inscrite dans les sources, où il est monté au Colisée, il a enlevé une croix, une personnalité anticléricale. Et puis pour ça, il a remporté 4 carnets de dessins. C'est quelqu'un aussi qui aime profondément l'art, donc qui aime aussi aider des collègues. Donc c'est vrai que dans ses tableaux, vous pouvez trouver la promotion des artistes qu'il a aimés par le passé. François Boucher, il va faire des citations, des hommages. Même à Fragonard, son contemporain, on peut en trouver dans l'exposition. C'est pour ça qu'on a mis constamment en regard tous ces artistes qui les ont tellement inspirés. Des artistes du passé, mais aussi du présent, on le voit avec Vernet. Et Hubert Robert fait ça tout au long de sa vie. Il aime bien travailler avec des gens en qui il a confiance, comme le sculpteur Pajou, ou des architectes comme Devailly.
Les artistes reviennent en France, et dans cette œuvre de Fragonard, on peut observer que le paysage change, les reliefs évoluent, et on est plus en Italie, mais on est en Hollande. Pourquoi on a cette évolution dans l'œuvre de Fragonard ?
Fragonard a toujours été très attiré par l'art hollandais. On en trouve des traces très rapidement dans les peintures avec des personnages, notamment il s'intéresse à l'œuvre de Rubens ou de Rembrandt. Et puis on en trouve ensuite dans le paysage, évidemment, où très vite il regarde des gravures, des peintures aussi, et il s'approprie. Alors Fragonard, c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans l'émulation. C'est-à-dire qu'il observe, il étudie, il réalise des... pas des copies, mais des véritables interprétations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « Ah non, c'est un Jacob van Ruisdael, c'est un Fragonard ». Et c'est ça qu'il cherche à faire, c'est en fait se dépasser tout en imitant. Il y a quelque chose qui est très fort dans le dépassement de soi, dans cette émulation qui est très propre au XVIIIe siècle. C'est encore des artistes qui sont jeunes et qui ont besoin de montrer qu'ils maîtrisent parfaitement tous les codes de la peinture. La peinture hollandaise, à ce moment-là, elle est extrêmement prisée. C'est celle qui se vend le mieux. Elle se vend en nombre, elle se vend cher, elle est rare encore. Et puis Fragonard a surtout la chance de pouvoir, grâce à un mécène qui s'appelle Bergeret, de visiter la Hollande. Donc de se confronter physiquement à un autre territoire, comme il avait pu le faire avec l'Italie, donc une lumière très méridionale, très forte, etc. Là, c'est tout l'inverse. C'est se confronter à ce ciel très bas qui est typique des Pays-Bas. Il va dans un endroit qui correspond aux Pays-Bas actuels. Et là-bas, il y découvre à la fois la peinture sur place et les paysages qu'il traverse, donc il parcourt lui-même avec son mécène. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, chez Fragonard, il y a quelque chose qui est l'ordre de la traversée dans tous ces paysages. On y voit des gens qui circulent, qui s'apprêtent à circuler dans l'espace qui est représenté dans le tableau. Chez Hubert Robert, on n'a pas ça. On n'a vraiment pas ce rapport à un espace qu'on parcourt. Et chez Fragonard, on voit bien l'expérience du voyage qui est là, etc. Dans l'exposition, j'ai un seul petit regret, c'est que je n'ai pas choisi d'œuvre du second voyage en Italie, parce qu'après, le mécène et son artiste sont allés en Italie. Donc une seconde fois pour Fragonard en 1774. Hubert Robert n'y est pas retourné. Fragonard, si, et j'ai pas souhaité mettre ces œuvres-là. Parce que déjà, dans les collections françaises, en fait, je vous raconte la réalité des choix qui s'opèrent quand on est commissaire d'une expo. Dans les collections françaises, ces œuvres-là sont souvent insolées. C'est-à-dire qu'elles ont été tellement appréciées, on les a tellement montrées, qu'elles ont pris la lumière et elles sont toutes jaunes. Et elles sont difficilement appréciables parce que les œuvres autour sont de si belle qualité. Ça aurait été difficile de les apprécier.
Il faudra un gros travail de restauration. La restauration ne permet pas de rattraper ça.
Voilà, ça ne se restaure pas. Ça peut se rattraper vraiment légèrement avec des gros risques en plongeant dans un bain. Mais avec les années, au bout de 50 ans, vous avez des petites taches qui apparaissent parce qu'on met des petits produits dedans, même s'ils sont souvent réversibles. Mais par exemple, pour ces fameux dessins de Fragonard qui sont conservés au musée de Besançon, aujourd'hui, ils ont des petites taches, etc. Ils sont très insolés. Et puis surtout, en termes de rapport à la nature, ce n'est pas un grand moment pour Fragonard. On le sent un peu contraint par son voyage avec son mécène. Il le suit partout, il y a beaucoup de moments de sociabilité. On le voit plutôt qu'il est obligé d'aller dans des parcs. Je dis obligé, j'en sais rien, mais on sent pas la ferveur de ses dessins et de ses peintures en Hollande où il joue du paysage. C'est des paysages très plats en Hollande. Le soleil est très bas, très dense. On voit plutôt que c'est ça qui l'intéresse. Et qu'est-ce que ça a traduit en peinture? Comment on travaille les gris? Comment on traduit la pluie qui tombe? Est-ce qu'on utilise des petites diagonales? Comment on rend cette l'horizon, qu'est-ce que ça veut dire, et les reflets de l'eau, c'est sur ça qu'il travaille. Ça le fascine, et c'est fascinant aussi en tant que visiteur à voir, c'est extrêmement beau. Il y a notamment une huile sur papier qui s'appelle le torrent. On espérerait qu'elle ait été commencée par exemple sur le motif et terminée en atelier, puis ensuite elles sont marouflées sur toile. Donc le papier est collé sur toile pour un collectionneur, pour qu'il puisse en profiter. Ça, c'est un travail extraordinaire.
Alors, je tombe un peu des nues parce qu'on connaît un petit peu Fragonard pour son aspect un peu érotique des paysages, des jardins. Mais je ne savais pas qu'on retrouvait ces thématiques aussi chez Hubert Robert. Moi, je pensais que c'était juste effectivement des paysages, des jardins. Et en fait, il y a un peu plus, c'est ça ?
Oui. Il faut vraiment se dire que ces artistes-là baignent dans une culture du libertinage qu'ont absolument toute leur clientèle. Leur clientèle font partie des libertins les plus célèbres de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est pas seulement une pratique, c'est une attitude. Dans le paysage, ça va se traduire par le recours à l'anthropomorphisme. C'est une pratique qui consiste à donner dans les formes de la nature des formes sexualisées, des formes physiques du corps humain. Et dans leur cas à eux, c'est plutôt sexualisé. C'est un phénomène qui existe depuis la Renaissance, ça n'a rien de nouveau. Pour eux, c'est plutôt des formes protubérantes qui vont rappeler des sexes masculins ou alors des espèces de caves, des choses avec plein de mousse autour, donc plutôt comme un sexe féminin. Par exemple, dans les lavandières près d'une fontaine naturelle, c'est un phénomène intéressant ce dessin, c'est une sanguine, parce que ça représente un travail très féminin. On voit une femme qui émerge d'une forme caverneuse, mousseuse, qui fait penser aux formes d'un sexe féminin, mais vous voyez, c'est pas frappant, c'est pas volontaire. C'est évoqué. Vous pouvez passer à côté, mais les collectionneurs savaient très bien ce qu'il est en train de représenter. On y va, elle travaille, il y a de l'eau qui s'écoule un peu. C'est tout un phénomène de rappeler aussi l'excitation, le désir. C'est ça, en fait, qu'ils font. Donc, vous voyez, surtout Hubert Robert, ça ne va pas être le libertinage qui rappelle une culture du viol qui était difficile pour moi à aborder. J'étais très contente qu'Hubert Robert ne l'aborde pas. À vrai dire, c'est un peu un soulagement. Pour Fragonard, je me suis aperçue que ça existe, cette partie-là. Là, dans ses représentations de scènes de genre que Guillaume Farou avait admirablement traité dans une exposition qui s'appelait Fragonard amoureux en 2015. Chez Fragonard, on va plutôt retrouver une nature qui participe au mouvement d'un élan amoureux. Une nature foisonnante, complètement folle, qui montre par exemple deux personnages qui vont se courir après. Tandis que chez Hubert Robert, c'est quand même plus déjà souvent une représentation féminisée de la nature, mais c'est pas aussi important que chez Fragonard par contre. Mais on peut le trouver, et j'avais trouvé intéressant de montrer cet aspect-là, surtout que c'est un dessin qu'il retravaille à partir de quelque chose qui est dans l'exposition, un dessin de Oudry, un dessinateur plutôt spécialisé dans les représentations des animaux. Hubert Robert a mis des personnages dans ses dessins, a inséré dans une vue de jardin vide une lavandière et il l'a repris sur son propre dessin en faisant quelque chose de quasiment mystique, déifié, comme une présence féminine unique qui représente en elle-même la nature.
Les lavandières, on voit qu'elles sont très présentes dans l'œuvre même des deux peintres. Qu'est-ce que ça représente à l'époque, ce personnage ?
Oui, alors dans le catalogue, il y a un professeur d'histoire de l'art à Montréal qui s'appelle Denis Ribouillot qui a beaucoup traité de la représentation des lavandières dans l'œuvre des deux artistes. Donc ce sont des figures qui sont associées à une condition modeste, associées à la prostitution aussi parce que les lavoirs sont situés en périphérie. Elles subissent des sévices aussi. Et c'est pas ça que présentent Hubert Robert et Fragonard. C'est pas du tout cet aspect-là. Et c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce que les artistes retiennent d'un personnage qui existe vraiment et très fortement dans le paysage. Eux, c'est vraiment le travail. Pour Hubert Robert, elles sont là. Elles sont avec leurs enfants. C'est elles qui transmettent les connaissances et la première rencontre qu'on a avec l'Antiquité, avec les ruines. Elles le montrent du doigt. Donc il y a ce rapport à l'éducation qui est à nouveau très lié à Rousseau. Chez Fragonard, elles sont au travail. Elles incarnent en elles-mêmes la puissance de la nature. Il y a un lien entre désir, fécondité qui traverse constamment l'œuvre de Fragonard et qu'il faut toujours réinterpréter, re-questionner parce que tout bouge, il n'y a pas une œuvre qui se ressemble et il n'y a pas une seule réponse pour toutes ces œuvres.
Et d'ailleurs, quelque chose qu'on sait moins aussi sur Hubert Robert, c'est qu'il aimait bien être très occupé. Il a un parcours assez particulier si on se plonge un petit peu dans sa biographie. Je passe des étapes parce que ça pourrait être une exposition à part entière, mais en plus être peintre, il était aussi aménageur de jardins artificiels et donc aussi créateur de tableaux d'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix de carrière qui est plutôt, j'ai l'impression, original ?
Je pense qu'il était atteint de workaholisme. C'est quelqu'un qui devait remplir son quotidien. En tout cas, il a eu certainement beaucoup de plaisir à travailler. C'est sûr, il devait vraiment s'épanouir en faisant toutes ces choses-là. Ce qui se passe, c'est que quand il fait ses caprices, le caprice architectural, donc cette réunion sur une même toile de plusieurs éléments qui proviennent de différents endroits, dans une nature qu'on réinvente, lui donne une compétence forte pour composer des espaces imaginaires. Et à l'époque-là, les gens veulent avoir des jardins. Paris s'urbanise énormément. Tous ses clients occupent le quartier, par exemple, de la Grange Batelière, en plein cœur de Paris, et ils ont besoin d'avoir la nature chez eux. Donc soit par des tableaux, soit quand certains ont de la chance, des jardins, des petits jardins qu'ils aménagent, ou alors ils ont beaucoup tous une maison secondaire, un château secondaire à vrai dire, avec des jardins, et petit à petit ils demandent tous au fur et à mesure à Hubert Aubert d'en composer une partie, etc. Et vraiment progressivement il va finir par réaménager le bosquet des Bains d'Apollon à Versailles en 1776, donc pour le roi. Et à partir de là, c'est une autre carrière qui commence, celle de dessinateur des jardins du roi, qui lui permet d'aller dans tous les palais, tous les châteaux qui appartiennent en fait désormais à Louis XVI, et d'en gérer la création d'allées, la gestion de plantations, etc. Il n'est pas jardinier.
Oui, il n'a pas de formation liée à ça en fait.
Non, c'est un poste absolument atypique. Atypique, qui n'a pas d'équivalent dans l'Ancien Régime. Personne n'a fait ce qu'il a fait. C'est ce lien entre décor intérieur et jardin. Et petit à petit, ces tableaux vont s'agrandir. Donc il faut imaginer, si vous avez la chance de commander quelque chose à Hubert Aubert, voilà, imaginons, on lui commande notre salon. Il faut imaginer, sur les murs, on va lui demander des vues. Il va faire une vue avec un pont, une vue avec une rivière, des paysages qu'on peut voir de format assez vertical ou presque carré. On en a à l'étage dans l'exposition. Ces vues-là, elles ont des fenêtres qui donnent sur des jardins, des miroirs autour sur les murs libres, ce qui fait que vous êtes dans un espèce de grand moment Hubert Aubert, vous êtes tout entouré de nature, le verre joue de partout entre la réalité, les reflets et les vraies peintures. Ça, c'est quand même un grand fort qu'il a eu, c'est là où il a pris beaucoup de place dans les intérieurs parisiens, il a une place donc très importante dans les paysages, et elle est difficile à embrasser pour les historiens de l'art, difficile à comprendre parce que tous ces ensembles-là ont été éparpillés. De parfois 8 ensembles, vous en avez plus que 4, et puis après on en a plus que 2, puis on en a plus qu'un. Et ça veut rien dire, un tableau vertical comme ça, qui manque tout le décor.
C'est comme pour un retable médiéval, en fait. Si on n'a plus qu'une partie, on a du mal à comprendre l'ensemble.
Exactement. Bah, dès qu'un ensemble est démantelé, il est un peu orphelin de ses autres moitiés.
Donc c'est comme s'il créait, en fait, avec ses tableaux, des fenêtres pour les salons de ses commanditaires, mais des fenêtres qui donnent sur des paysages imaginaires, en quelque sorte.
Oui, alors ça peut être imaginaire, ça peut créer des jeux aussi d'aller et de retour. Par exemple, il y a la Grande Cascade et le Grand Rocher qui ont été peints pour Méréville, donc appartenait à un banquier très important qui s'appelait le Marquis de Laborde. Il place ces deux grands tableaux vis-à-vis du jardin, dont il a lui-même dessiné une grande partie des choses. Et à l'intérieur de ces tableaux, qui sont complètement imaginaires, vous avez des évocations. Le pont évoque un pont qu'il a créé, qui est en train d'être construit. Donc c'est un aller-retour dans quelque chose qui est très novateur aussi, très coûteux, avec des faux rochers. Enfin, il faut imaginer quelque chose d'un peu démentiel. Laborde aussi, qui a son jardin en chantier, a besoin de vues chez lui quand il est à Paris. Et Hubert Aubert lui crée des tableaux qui sont comme des projets en cours. Donc souvent, les historiens de l'art ont voulu retrouver les moments exacts qui correspondaient au jardin qui depuis a disparu. Et en fait, il ne faut pas le penser comme ça. Quand on lit les correspondances entre Laborde et Hubert Aubert, on voit bien qu'il lui dit « j'essaie de réaliser votre rêve, votre projet ». Il parle bien du terme projet, c'est assez incroyable cette idée prospective anticipatrice qui aboutira à un résultat qui est très différent de celui du tableau. C'est une partie que j'ai pu étudier avec un collègue qui s'appelle Gabriel Wick, un historien de l'art anglo-américain. Et tous les deux, en 2017, on avait fait une exposition sur Hubert Aubert et les jardins, où on avait pu travailler avec, en collaboration avec Monique Mosser, Nicole Gouiric, etc., sur justement la part des jardins chez Hubert Aubert. J'avais pas envie de faire une exposition à nouveau sur les jardins, mais vraiment sur le rapport de la nature, parce que finalement, j'avais pas pu le faire dans l'expo précédente. Et là, c'était vraiment de voir qu'est-ce que ça raconte, en fait, de ce travail-là, qu'est-ce que ça raconte de sa position de peintre. Et dans ses peintures, il faut voir qu'il c'est un peu un magnifique manifeste pour montrer que ce qui prédomine dans les jardins, c'est la composition en peinture. Il pense ces jardins comme une peinture. Et ça a agacé beaucoup des jardiniers comme Thomas Blakey, qui était écossais et qui travaillait pour la cour. Et il était très agacé par Hubert Robert. Donc Hubert Robert était quelqu'un de sympathique, mais quelqu'un aussi qui s'assumait, qui s'imposait aussi. Et de fait, son entre-gens était très présent. Et j'imagine que ça ne devait pas toujours être facile de trouver une place aussi, parfois à ses côtés.
Et dans l'exposition, on commence à arriver à ce qu'on connaît de mieux de Fragonard, parce que de son côté, Fragonard a choisi une carrière qui est un petit peu différente de celle d'Hubert Robert, parce que lui, il est parti de l'Académie et il a créé des œuvres vraiment encore plus pour des personnalités privées. Il est très influencé par la société libertine. Alors comment ces commandes et comment ce cercle de sociabilité fait évoluer ce tableau de nature et de paysage ?
Merci pour cette question. C'est l'occasion de parler de Fragonard en essayant de pas trop projeter ce qu'on imagine de lui, etc. C'est une personnalité beaucoup plus complexe que celle d'Hubert Robert. Ils ne viennent pas du même milieu social. Il est fils de Gantier de Grasse dans le sud de la France. Il a un accent, ce que je peux comprendre. En même temps, il a ce talent très fort. Il y a des fortes attentes de l'Académie qui pèsent sur lui. Et il découvre dès son arrivée, on lui donne ses premières commandes, et il découvre la lenteur administrative et la lenteur des paiements de l'administration, mais de plusieurs années, qui le mettent dans des situations compliquées parce qu'il vient de se marier, il a une famille. Et les artistes sont des vraies contingences matérielles réelles. Hein. Il est extrêmement déçu, mais comme il possède ce logement dans les galeries du Louvre, très vite, parce qu'encore une fois, il est vraiment perçu comme quelqu'un de talentueux, qui va vraiment régénérer le genre de la peinture d'histoire.
Donc il a un logement de fonction.
Il a un logement de fonction au cœur de Paris. Il va refuser de participer au salon. Il refuse toutes les commandes qui lui sont données petit à petit. Et on le voit dans les correspondances des procès-verbaux de l'Académie. Le directeur des bâtiments du roi décide de lui laisser la jouissance de son logement parce que c'est un être exceptionnel et qui sait peut-être qu'il changera d'avis. Ben, finalement, il ne change jamais d'avis. Et il va se mettre dans une quête qui est vraiment très proche de ce qu'on connaîtrait des artistes aujourd'hui, une quête profondément personnelle de la peinture. Hubert Robert, c'était très intellectuel, avec beaucoup de sens, de signification, de choses à déchiffrer dans ses tableaux, etc. Alors Fragonard, c'est vraiment beaucoup plus instinctif, ça peut paraître plus fort aussi, c'est plus intense. Il y a une émergence très forte des sujets, des émotions qu'on peut ressentir chez Fragonard. C'est ça sa force, ça se traduit aussi matériellement dans sa peinture. Tous les deux ont une peinture très esquissée. C'est à la mode, c'est pas qu'ils savent pas achever, c'est que c'est à la mode, ça traduit le feu, l'envie, l'enthousiasme et ce qu'on appelait à l'époque le génie. Donc cette capacité d'imagination et d'invention, de caprice, quoi, immédiate. Fragonard a cette facilité qui était déjà celle de son maître, François Boucher, et il s'inscrit dans ses pas, par exemple, sur les deux tableaux de Montpellier, qui sont des tableaux exceptionnels qui appartenaient à Bergeret, le mécène qui l'a emmené dans son second séjour en Italie. Ces deux tableaux qui étaient perdus depuis vraiment plus de 150 ans et qui ont surgi de manière providentielle sur le marché de l'art il y a quelques années et qui ont été acquis avec l'aide du Louvre et qui ont été... Il y a eu un transfert de propriété qui a été opéré pour le musée Fabre à Montpellier. Le jeu de la bascule, le jeu de la palette et puis une œuvre qui est conservée à Lyon qui est restée sur place qui s'appelle La Prairie et puis nous, dans l'exposition, on a Le Rocher. Là, ce qu'on voit chez Fragonard, c'est une nature qui renseigne l'état physique presque des personnages. Souvent, ça va de pair, ça agit comme ça. On va avoir une profusion de nature, une nature qui est vraiment... Il y a du lierre de partout, ça grimpe de partout. Et c'est comme un moment d'élan. C'est une nature qui est procréative, qui est féconde. Elle produit sans cesse de la nature elle-même. On sent l'élan amoureux des personnages, ce rapport charnel qu'ils sont sur le point d'avoir. Ils sont en train, sur le point de se toucher. Il y a quelque chose du désir. Et la nature, c'est aussi l'écrin qui cache ces amours qui ne sont pas toujours autorisés parce qu'on est hors alliance, mariage, etc. Donc il y a de ça aussi chez Fragonard à voir comme un jeu. En fait, ce qui est beau chez Fragonard, c'est que c'est comme s'il reprenait tout l'héritage de Watteau, surtout de Boucher, donc un héritage lié à la fête galante, qui déjà mettait ses personnages dans la nature, déjà avait ses rapports très érotisés entre eux, sans qu'on ne voit jamais rien, tout est évoqué. C'est ça qui est important, comparé à ce qu'on a pu voir avec les paysages hollandais, où on voyait vraiment un rapport plus au territoire, à la structure géographique des lieux.
Oui, on sent que ça y est, maintenant, Fragonard, il maîtrise les paysages, il maîtrise la nature, donc maintenant, peut-être qu'il se concentre un peu plus sur l'histoire qu'il raconte et sur les personnages, voilà, qui sont effectivement plus détaillés, plus dans la sensualité.
Oui, c'est exactement ça. Et puis, ils font plein de choses à la fois. Tout le long de leur vie, ils reviennent sur des formules passées. Ils essaient de les reprendre, de les améliorer. Des paysages hollandais, il en fait toute sa vie parce qu'en fait, ça marche tellement auprès des collectionneurs. C'est le seul artiste vivant de la seconde moitié du XVIIIe siècle dont les prix rivalisent avec les maîtres hollandais du XVIIe siècle. C'est vraiment le seul. Et ça, il le fait sur un étalement de 20 ans. Par exemple, moi, en tant qu'historienne de l'art, c'était difficile d'affiner la chronologie des œuvres, des paysages d'inspiration hollandaise de Fragonard, parce qu'il ne les signe pas, il ne les date pas, comparé à Hubert Robert, qui aime bien être le témoin d'un moment, etc., poser les choses. Fragonard, il travaille autrement, en tout cas. Et c'est difficile, comme il travaille d'après les maîtres. Il reprend des tableaux, on lui demande de s'insérer dans des collections, de faire des contrepoints avec des œuvres déjà existantes dans la collection dont on n'a pas toujours la connaissance. Ça fait des choses tellement compliquées à déterminer et là, à nouveau, je pense qu'à un moment donné, quand on n'a pas de source, quand on n'arrive pas à voir avec notre œil nu, c'est là où peut-être des analyses multispectrales pourraient nous aider. On pourrait affiner, comprendre peut-être les fonds, les choses qu'on ne peut pas voir derrière les couches de peinture, les manières dont ils travaillent peut-être. On pourrait voir toutes ces choses-là, voir des manières de jeter son pinceau, analyser les pigments. Par exemple, les peintures en Italie ne sont pas des pigments qu'il reprend à la fin de sa carrière. À la fin de sa carrière, c'est des pigments beaucoup plus riches, avec d'autres couleurs. Le tableau que certainement a possédé Hubert Robert a des pigments très basiques, très peu coûteux qu'on trouvait qu'en Italie, par exemple, à l'époque. Ça, c'est le laboratoire du Louvre qui a beaucoup mené de recherches avec le C2RMF, par exemple.
Et alors, comme on l'a vu juste avant, là où chez Fragonard, on s'amuse dans la nature, en général, bon je résume, hein, ce n'est pas que ça bien sûr, mais chez Hubert Robert, c'est pas la même ambiance. Comment les personnages, eux, sont représentés dans la nature à ce moment de sa carrière? Là, on est plutôt effectivement vers la fin des années 1770.
C'est parce qu'Hubert Robert, c'est le peintre des ruines. C'est le peintre des ruines et la ruine, c'est la démonstration que tout ce que l'on crée disparaît. La ruine, pour lui, c'est un produit de la nature. C'est vraiment la nature qui fait disparaître les créations humaines, soit en les ensevelissant, soit en les recouvrant. Donc il y a ce double phénomène qui vient du sol et à la fois d'en haut. On pense à toutes les galeries en ruine avec un plafond crevé où on voit déjà pendre des lierres, etc. Donc voilà, la nature, elle recouvre et de toutes parts. Ça se ressent dans certains personnages. Il aime bien quand même montrer les personnages qui découvrent les ruines, qui marchent, qui se promènent en fait. Ce qu'il montre, c'est des promeneurs. Il faut se rappeler, ses clients commencent à faire des promenades eux-mêmes dans leur propre jardin. On mène des excursions aussi, c'est bon pour la santé physique, c'est bien sûr une activité éminemment sociale. On se montre. Et puis aussi, c'est le début d'une perception un peu plus, ce qu'on pourrait appeler pré-romantique, où il y a quelque chose où la nature, son état, raconte l'état d'âme du personnage. Ça, c'est ce que montre parfaitement le tableau qui s'appelle La Promenade, un tableau en collection privée qui est très très beau, avec des couleurs assez rares, qu'on connaît dans des tableaux qui sont conservés au Metropolitan Museum of Art à New York. On a ces couleurs très bleutées dans une forêt, donc il y a quelque chose d'irréel. Et dans ce tableau, c'est ce qu'on voit, c'est ce personnage qui est perdu dans ses pensées, qui avance vers un tombeau. Donc il y a quelque chose de profondément mélancolique, avec des arbres qui sont déchiquetés, des branches qui pendent, etc., presque un peu dangereux. Mais elle a l'air tellement sereine. Il lui a donné des couleurs roses, plutôt douces. Il va trouver un équilibre pour pas avoir une atmosphère angoissante ou même pesante. Fragonard a fait le même travail au même moment, plus proche de la peinture anglaise. Ce serait intéressant de connaître un peu plus Célia. C'est un dessin qui est juste à côté, qui représente la vie où on voit une femme qui marche aussi, toute seule, tête baissée, alors elle avec son petit chien. Donc c'est pour donner le caractère très personnel et social de cette activité, où chacun doit aller à son bien-être, hein. On fait faire son petit tour au chien déjà. Mais la nature, elle est représentée très floue, très évasive, extrêmement esquissé avec son lavis très délavé, il a mis peu d'encre, et il y a quelque chose qui n'est pas fini, et il faut le finir avec l'imagination. C'est très interprétatif, c'est très ouvert pour le spectateur en fait, et c'est ça qui est à mon avis très intéressant quand on regarde Fragonard, c'est qu'on a du mal à imaginer exactement où il veut nous emmener. Il y a une part qui était volontaire, et Diderot, le philosophe Diderot a beaucoup écrit dessus, sur l'esquisse, qui est un état de la peinture qui nous permet, en tant que spectateur, de pouvoir imaginer d'autres choses. Les choses ne sont pas figées dans des formes parfaitement décrites, très précises, et c'est cet indéterminé qui nous mène ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte qu'il a écrit, ce texte, pourquoi l'esquisse nous plaît-elle le plus. Il a écrit au sujet de tableau de Hubert Robert, et tout le monde pense que c'est toujours pour Fragonard, et je le vois même écrit de temps en temps dans des ouvrages, ça me fascine toujours.
Et si on veut en savoir plus, alors pour des personnes qui n'auraient malheureusement peut-être pas la possibilité d'aller à Valence, ce qui est vraiment très très dommage, mais donc pour les personnes qui ne peuvent pas aller, qu'est-ce que tu peux conseiller comme ouvrage pour en savoir plus sur Hubert Robert et sur Fragonard, sur la nature, si on doit citer quelques titres, sachant que je mettrai sur mon site un article en lien avec l'épisode où je mettrai tous les conseils de lecture détaillés. Donc vraiment, si tu dois en donner comme ça quelques-uns à l'oral.
Bah pour Hubert Robert, c'est un peu compliqué parce que le catalogue du Louvre est épuisé. Il a été épuisé dès la fin de l'exposition, donc c'était la somme la plus complète sur Hubert Robert. Sur Hubert Robert, je sais pas trop, je me sens tellement mal placée parce que j'ai beaucoup écrit dessus. On peut lire plein de choses sur mon profil Academia. J'ai mis tout ce que je pouvais.
Peut-être un livre en préparation qui serait indépendant d'exposition ou pas ?
Oui, 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 je publie ma thèse avec les éditions Cohen et Cohen. C'est long à paraître, que c'est long, mais ça va finir par arriver. Ce sera un catalogue vraiment plutôt coûteux, des belles images, un beau livre d'art. Pour Fragonard, il y a plus d'ouvrages. Déjà, il y a des ouvrages qui n'ont pas été épuisés en exposition, donc moi je conseille vraiment Fragonard amoureux. C'est magnifique, c'était le travail de Guillaume Farou. Oh non, mais Fragonard, il y a des ouvrages tout le temps qui sortent. On peut trouver de Marianne Dupuis-Vacher une petite collection très simple, récapitulative. Moi, je suis très Wikipédia. En fait, moi, je complète régulièrement la notice de tous ces personnages, en fait, de tous les artistes du
Donc
saut.
Toi-même, tu y vas tu coup, pour la compléter ?
Oui, oui, oui. Alors après, il ne faut pas mettre ses propres références, sinon on se fait bâcher par les...
C'est les règles de Wikipédia, il ne faut pas mettre soi-même son travail.
Alors du coup, je suis un peu embêtée parce qu'il n'y a personne qui pense à mettre le mien pour la fiche Hubert Robert, mais bon, c'est pas grave, je lance
s'il y a
un
des
appel.
Gens qui, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent faire ça.
Non, non, plus sérieusement, je trouve que sur les sites... Je suis fascinée par les sites des musées. Je trouve qu'on trouve vraiment des sources sûres. Je pense à ce qu'avait fait le musée du Luxembourg pour Fragonard. Pour Hubert Robert, c'est plutôt aux États-Unis qu'on va trouver des choses extrêmement solides. Mais moi, j'aimerais bien, pour Hubert Robert, faire un petit livre très simple. Mais là, je vois que sur la table, il y a le livre d'exposition qui était un petit livret, mais très bien. Moi, j'aimerais beaucoup écrire quelque chose de très peu coûteux, autour de 10 euros, qui fasse le point sur Hubert Robert.
Bah, je pense qu'il y a de la place pour ça. Merci beaucoup, Sarah Catala, et puis bonne continuation pour tes recherches, peut-être pour de futures expositions, et merci beaucoup pour cette belle exposition au musée de Valence.
Bah merci, moi je parle toujours trop d'Hubert Robert et de Fragonard, mais je les apprécie tellement et j'espère que les gens qui nous écouteront les apprécieront aussi.
Et vous avez donc jusqu'au 21 juin 2026 pour découvrir cette exposition, et si jamais vous écoutez l'épisode après sa sortie, eh bien c'est pas grave. Allez quand même au musée de Valence parce qu'il y a un très gros fond, comme j'ai dit au début, un très gros fond de peinture d'Hubert Robert. Vraiment un grand plaisir si vous aimez ce peintre. Et je pense que même après l'exposition, vous pourrez encore retrouver le catalogue d'exposition dans la boutique du musée. Et alors, l'épisode n'est pas tout à fait fini, enfin presque. Après cette interview avec Sarah Catala, on a eu plein de discussions très passionnantes qui ne sont pas directement liées à l'exposition, mais pour savoir un petit peu plus comment fonctionne le marché de l'art aujourd'hui et surtout le marché de l'expertise d'art, donc pour écouter un petit épisode bonus qui est déjà disponible sur le flux de podcast. Merci encore énormément au Musée de Valence pour cette belle collaboration, vraiment je suis très contente. Et si vous allez voir l'exposition, je compte sur vous, envoyez-moi un petit message et puis ben voilà, vous verrez que l'audio guide de l'exposition, c'est des petits extraits de ce que vous avez écouté aujourd'hui. Et à bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut !